Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, il y a 10 ans, un séisme ravageait Haïti faisant des centaines de milliers de morts. Le Conseil de sécurité discute ce lundi de la situation en Colombie. En République démocratique du Congo, des Congolais demandent à l'ONU d'enquêter sur les massacres commis à Beni. Et en dossier, une responsable de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés nous explique les nouvelles recommandations du HCR à l'attention de l'Union européenne sur la protection des personnes déplacées. Il y a 10 ans, le 12 janvier 2010, à 16h53 et 10 secondes, heure locale, un séisme d'une magnitude 7 a frappé Haïti, faisant des centaines de milliers de morts et de blessés et des dégâts considérables. Dans un message, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rendu hommage aux Haïtiens et aux membres du personnel de l'ONU qui ont perdu la vie. On l'écoute.
En ce jour, nous rendons hommage aux centaines de milliers de Haïtiennes et Haïtiens qui, voilà 10 ans, ont perdu la vie dans le séisme dévastateur qui a frappé leur pays et aux millions d'autres que cette catastrophe a durement touchés. Nous rendons aussi hommage aux 102 membres du personnel de l'ONU, nos collègues, qui ont trouvé la mort. Jamais je n'oublierai la tristesse et l'effroi que nous avons tous ressentis dans l'organisation lorsque nous avons compris l'ampleur de la tragédie. Mes pensées vont à celles et à ceux qui ont perdu des proches, des amis, des êtres chers. Depuis 10 ans, Haïti a pu compter sur la résilience de ses habitants et sur le soutien de ses nombreux amis pour surmonter cette épreuve. Avec l'appui constant de la communauté internationale, Haïti s'efforce de réaliser les objectifs de développement durable, notamment par le renforcement des institutions indispensables au bien-être et à la prospérité de sa population. Aujourd'hui, je renouvelle l'engagement de l'ONU à aider Haïti et ses habitants à bâtir un avenir meilleur.
En Colombie, la paix durement gagnée doit être protégée et préservée. C'est ce qu'a rappelé le chef de la mission de l'ONU dans ce pays ce lundi devant le Conseil de sécurité. Carlos Ruiz Massieu a encouragé le gouvernement colombien et les anciens rebelles des FARC à approfondir leur dialogue pour réconcilier leurs différends sur la mise en œuvre de l'accord de paix. Pascal Sim nous en dit plus.
Carlos Ruiz Massieu a salué l'adoption fin décembre de la feuille de route sur le processus de réintégration des anciens combattants FARC. L'envoyé de l'ONU a toutefois mis en garde contre la violence généralisée qui persiste dans les zones touchées par le conflit et qui continue de menacer la consolidation de la paix. La paix ne sera pas pleinement réalisée si les voix courageuses des leaders sociaux continuent d'être réduites au silence par la violence et si les anciens combattants qui ont déposé leurs armes et sont déterminés à leur réintégration continuent d'être tués, a prévenu Carlos Ruiz Massieu. Les autorités colombiennes ont annoncé dimanche avoir déjoué une tentative d'assassinat contre le leader des FARC, Timoshenko. Une tentative qui souligne les risques auxquels sont confrontés les anciens membres des FARC et le processus de paix lui-même et combien il est important de garantir leur sécurité. En Colombie, les causes profondes de la violence sont les mêmes que par le passé. Une présence de l'État limitée dans des régions touchées par une pauvreté persistante, laissant ainsi le champ aux groupes armés illégaux et aux structures criminelles. Pour l'envoyé de l'ONU, la pleine mise en œuvre de l'accord de paix dans tous ses aspects interdépendants offre le meilleur espoir possible à la Colombie de jeter les bases d'un avenir plus pacifique et plus prospère.
En République démocratique du Congo, à la suite de la publication la semaine dernière d'un rapport des Nations Unies faisant état de possibles crimes contre l'humanité commis dans la province de l'Ituri, à l'est du pays, la société civile de Butembo, dans la province du Nord Kivu, a appelé l'ONU à porter son attention sur les massacres commis à Beni, qu'elle qualifie de génocide du peuple Nandé. Radio Okapi a recueilli les déclarations du professeur Télésphore Malonga, président des forces vives de Butembo.
La coordination urbaine de la société civile, forces vives de Butembo, se réjouit du rapport rendu ce mois de janvier 2020 par le bureau conjoint aux droits de l'homme des Nations Unies concernant les violences des Djougou à province d'Ituri, dénonçant le grave crime contre l'humanité et le possible génocide contre le peuple Hema, majoritairement victime d'un conflit qui, entre 2017 et 2019, aurait fait environ 701 victimes. Pourtant, la coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo ne peut manquer de s'étonner que ce bureau conjoint aux droits de l'homme n'ait pas porté la même attention sur le conflit et le génocide de Beni, ville et territoire, dans lequel plus de 2000 personnes ont été sauvagement et délibérément massacrées depuis octobre 2014.
En ce début d'année, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a publié une série de recommandations ambitieuses mais réalisables à l'attention de l'Union européenne, avec pour objectif d'aider l'UE à jouer un rôle phare dans l'appui aux personnes déracinées en 2020 et pendant la prochaine décennie. Ces recommandations encouragent notamment l'UE à établir un système d'asile véritablement commun et à appuyer les pays qui accueillent la majorité des plus de 70 millions de personnes déplacées dans le monde. Éclairage de Maëve Patterson, chargée de communication au HCR. Elle est au micro de Christina Silvero.
On propose deux recommandations clés afin d'assurer un système d'asile qui soit vraiment commun et viable. Un système qui protège les réfugiés, qui soutient les communautés qui les accueillent. Premièrement, on propose l'établissement des procédures d'asile équitables et rapides. Ceci est vraiment important afin d'identifier qui a besoin d'une protection internationale ou non, qui est réfugié, qui fuit leur maison, qui fuit la persécution et la violence. Les personnes pouvant bénéficier de la protection internationale devraient rapidement se voir accorder le statut de réfugié et recevoir une aide à l'intégration. Et aussi, afin de soutenir vraiment le système d'asile, les personnes qui ne peuvent pas bénéficier d'une forme de protection devraient se voir offrir une aide au retour aussi. On propose aussi un partage de charges avec les États membres de l'Union européenne qui reçoivent un nombre disproportionné de demandes d'asile afin de garantir un système, disons, d'asile véritablement commun et opérationnel. On encourage donc les présidences de l'Union européenne à faire avancer les travaux sur un mécanisme de solidarité efficace. On pense que ceci peut vraiment être réalisé, par exemple, à travers un accord commun sur la relocalisation en accordant la priorité au regroupement familial. Qu'est-ce que c'est la relocalisation? Alors, c'est un transfert des demandeurs d'asile de pays qui en reçoivent un grand nombre vers d'autres pays.
Ça veut dire que les pays plus limitrophes enverraient les réfugiés vers d'autres pays européens?
C'est-à-dire que souvent, quand on regarde l'Europe, il y a plusieurs demandeurs d'asile qui arrivent dans un ou deux pays. Et vraiment, dans l'esprit de l'Union européenne, ce qu'on veut voir, c'est que tous les pays dans l'Union européenne se rassemblent et partagent la responsabilité pour accueillir les réfugiés.
L'accueil des réfugiés suscite beaucoup d'appréhension et de polémiques. Est-ce qu'il y a des exemples avérés, justement, que ces politiques et recommandations que fait le HCR fonctionnent ?
On a beaucoup travaillé avec l'Union européenne depuis des années au niveau de plaidoyer. Et ce qu'on dit tout le temps ici à l'HCR, c'est qu'avec une réponse commune, les pays de l'Union européenne peuvent vraiment gérer humainement et en toute sécurité les arrivées des réfugiés et des migrants d'une manière qui fonctionne à la fois pour les réfugiés, mais aussi pour les communautés qui les accueillent, pour les États membres. En 2015 et 2016 aussi, on a vu vraiment de nombreuses communautés et des personnes à travers l'Europe accueillir des réfugiés à Bruxelles, à Berlin, en Vienne, à travers l'Europe. Les Européens ont vraiment accueillir les réfugiés dans les rues, dans les écoles, chez eux. Et aussi au niveau politique, cette année, par exemple, l'Union européenne s'est engagée aussi à réinstaller 30 000 réfugiés en Europe cette année, c'est-à-dire transférer des réfugiés d'un pays d'asile en dehors de l'Europe à un pays en Europe. Et à l'intérieur de l'Union européenne, on a déjà parlé de la relocalisation. On a vu en 2019 aussi certains États membres qui se sont mobilisés ensemble pour relocaliser les réfugiés sauvés en mer. Mais on doit voir ça plus systématiquement. Aussi, le nombre de personnes déracinées à travers le monde maintenant a dépassé 70 millions. Alors, on demande vraiment à l'Union d'augmenter le nombre de moyens légaux à la disposition des personnes qui cherchent la sécurité en Europe et de se mettre d'accord sur un mécanisme de solidarité efficace à l'intérieur de l'Union européenne. On pense vraiment que nos recommandations vont vraiment aider l'Union européenne à mieux protéger les personnes déracinées ainsi que d'assurer un appui aux pays d'accueil.
Il y a également des recommandations qui s'appliquent à l'extérieur de l'Europe, y compris aux pays voisins, de l'aide au développement, etc.
Oui, tout à fait. Comme j'ai dit, on est très ambitieux, mais on pense toujours que nos recommandations sont réalisables. On pense vraiment que l'Union européenne peut jouer un rôle moteur dans la protection des réfugiés en Europe, mais aussi dans le monde entier. Alors, la plupart des personnes qui fuient les conflits, les violences et les persécutions restent dans leur propre pays, fuient vers les pays voisins, mais la majorité ne fuit pas vers l'Europe. C'est-à-dire que 85% des réfugiés à travers le monde sont actuellement accueillis dans des pays voisins et en développement. Alors, ici à l'HCR, on appelle les présidences de l'Union européenne en 2020, la Croatie et l'Allemagne, à s'assurer un financement accru et diversifié afin d'améliorer l'appui aux pays hôtes et d'aider les personnes déracinées à reconstruire leur vie. Vraiment aider les pays où les grands nombres de réfugiés habitent.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info. Retrouvez sur notre page internet et nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.